Salut à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode d'Au Café Avec. Cette fois, on retourne sur les patinoires et on est allé à la rencontre de Stéphane Lebeau. Emmanuel Favre était au Québec et a pu rencontrer la légende du HC La Chaux-de-Fonds pour prendre un petit café avec lui et revenir sur sa carrière pas comme les autres, au Mélèze notamment. Bonne écoute d'Au Café Avec. Stéphane Lebeau, quel plaisir de te voir ici à Montréal, sur tes terres.
Merci.
Est-ce que tu peux me dire où on est et ce que tu fais ici?
Et on est au centre-ville de Montréal, à un très bel hôtel qui s'appelle le Ritz-Carlton. Et puis on est ici particulièrement parce que cette semaine, il y avait des retrouvailles pour l'édition du Canadien de Montréal de 1993. Pour célébrer un peu cet anniversaire qui est déjà 30 ans qu'on a soulevé la Coupe Stanley. Mais en plus, l'édition, on participait à une soirée hommage au Dr Mulder, qui a été, écoutez, là, le médecin du Canadien de Montréal pour 60 ans. Il a repris sa retraite, donc il y avait un hommage en son honneur. Et l'édition 93, on s'est rassemblés avec d'autres joueurs pour participer et amasser des fonds pour différentes fondations. Donc, deux soirées très magiques pour nous, les anciens joueurs du Canadien, et spécialement l'édition de 93.
Bien sûr, c'est hier, je l'ai vu dans l'hôtel, il y avait beaucoup de stars, hein, de cette équipe de stars, des gens qui sont au tombe de la renommée. Il y avait aussi Paul Di Pietro qui faisait partie de cette aventure, bien connu en Suisse aussi. Mais dis-moi Stéphane, quand tu l'as gagné cette Coupe Stanley en 1993, est-ce que tu aurais pu imaginer que ce serait la dernière du club le plus titré de l'histoire du hockey sur glace?
Jamais. C'est fou. Lorsqu'on a soulevé la Coupe en 93, évidemment, le Canadien était encore dans la tradition de gagner des Coupes Stanley. Le Canadien avait perdu en finale en 89, avait gagné la Coupe en 86. Donc, le Canadien gagnait au pire à tous les 7 ans environ une Coupe Stanley. Et là, ça fait 30 ans que nous, l'édition de 93, on surfe sur cette vague d'insuccès du Canadien. À quelque part, il y a un côté plaisant, mais là, ça commence à faire long. On a hâte que le Canadien retrouve leur note de noblesse et aspire, évidemment, à gagner une fois encore la Coupe Stanley pour faire le numéro 25, mais au moins retrouver leur note de noblesse pour redevenir une équipe compétitive au sommet de la Ligue nationale.
Oui, parce que ce que vous avez vécu, c'est vrai que chaque 5 ans, ils ont fêté les 20 ans, les 25 ans, les 30 ans, les 35 ans, ça suffit à un moment, quoi. Je pense que vous avez marre de sortir un petit peu du tiroir et puis d'aller répéter un petit peu les mêmes histoires de choses qui ont été
vécues. Oui, même moi, je suis tanné qu'on parle de 1993. C'est le fun. Jamais je vais personnellement oublier ces mémoires-là, ces souvenirs-là, mais... Oui, c'est le temps de passer à un autre appel. Par contre, les gens à Montréal, beaucoup de gens sont nostalgiques. Donc, on l'a vu avec notre présence à la Fondation. Il y avait 1000 personnes sur la Centre Bell à nous acclamer et encore après 30 ans à nous traiter comme des idoles presque.
Est-ce que ça, c'était le moment le plus fort de ta carrière, quand tu l'as soulevé? En plus, tu avais été un acteur qui était dominant, qui avait vraiment contribué à cette conquête en 1993. Est-ce que c'est dans ta carrière le summum?
Ah oui, et de loin sur le plan professionnel, bien sûr. Faut comprendre que bon, j'ai grandi à environ 90 minutes au nord de Montréal. Donc, j'ai vu, en grandissant, les succès du Canadien. Pas que j'étais un réel partisan du Canadien, parce qu'à l'époque, mon idole, c'était Bobby Orr. Et il jouait pour les Bruins de Boston.
C'était les ennemis, hein?
C'était les ennemis, mais quand même, on a grandi en voyant le Canadien de Montréal soulever beaucoup de Coupes Stanley. Et en tant que jeune joueur passionné, ben, la Coupe Stanley, je l'ai gagnée à maintes reprises dans mon sous-sol, dans les rues à l'extérieur, sur les patinoires extérieures. Donc, c'était un rêve d'enfance. Et de soulever cette Coupe Stanley-là dans l'ancien Forum à Montréal, devant ma famille, devant ma conjointe, c'est le summum. Et puis, c'est des moments que jamais je vais pouvoir oublier.
c'est magnifique. Quand on fait du sport et on peut vivre ces moments-là, on sait pourquoi on a consenti tant d'efforts pour pouvoir y arriver.
Oui, tout à fait. J'avais déclaré que, bon, une déclaration un peu stupide de ma part, mais j'avais dit que maintenant, j'ai accompli pourquoi je suis venu sur la Terre. C'était de soulever la Coupe Stanley et que je pouvais mourir.
Ah, d'accord.
Mais je suis content que ça soit arrivé parce qu'il y a plein d'autres choses après la Coupe Stanley, mais de façon professionnelle, cette conquête-là, c'était le but ultime. Puis ce qui était intéressant, c'est que 30 ans plus tard, tu réalises l'importance que ce rêve-là soit partagé par d'autres personnes. Parce que tu ne peux pas gagner la Coupe Stanley tout seul.
Bien sûr.
Tu as besoin d'aide d'un paquet de gens. Oui, les joueurs, le personnel. C'est pour ça que c'est autant difficile de gagner des championnats de ce niveau-là. Parce que ça prend plein de choses qui arrivent au bon moment, des personnes qui poussent dans la même direction. Et puis, c'est pour ça que 25, 30 ans, lorsqu'on se rencontre, tous les joueurs, on est capable d'apprécier ce qu'on a fait chacun, un pour l'autre.
Ça fait un lien aussi parce qu'après cette conquête, tu as joué quelques années ici encore, en Amérique du Nord, à Montréal particulièrement, et après tu es venu en Suisse.
Oui.
Et c'est vrai qu'avec du recul, donc juste pour rappeler, je crois que de mémoire, tu as joué 2 ans à Lugano, 2 ans à La Chaux-de-Fonds,
oui,
et 2 ans à Ambrì-Piotta avant,
exact,
de prendre ta retraite sportive assez jeune en fait, en 2001. Tu avais
33 ans.
33 ans quand,
oui,
même pour ça. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ces 6 ans passés en Suisse?
Une expérience des plus formidables. Pour moi, ma conjointe, on a tellement apprécié la Suisse. C'était dans mes plans de carrière d'aller terminer ma carrière en Europe. Je n'avais pas identifié nécessairement la Suisse à l'époque, mais c'était dans mon plan. Et puis, c'est un petit peu par hasard. Dans un premier temps, mon frère, lui, évoluait à Zurich.
Patrick,
exact. Puis, à un moment donné, il y a eu un arrêt de travail dans la Ligue nationale. Et le hockey était arrêté. Ma carrière était sur pause à cause de cet arrêt de travail-là. Donc, j'ai pris l'avion et j'ai été visiter mon frère en Suisse pour aller le voir puis le côtoyer. J'avais apporté mon équipement de hockey. Et dans l'éventualité où il n'y avait pas de retour au hockey dans la Ligue nationale, je pouvais peut-être poursuivre après la période des fêtes avec une équipe de Suisse.
Okay.
La Ligue nationale a repris son action. Je suis revenu en Amérique du Nord. Mais mes contacts avec les différentes équipes là-bas s'étaient établis. Et même si j'étais jeune à l'époque, je me suis laissé convaincre assez tôt d'aller en Suisse avec Lugano. Avec le recul, je réalise que je suis parti très tôt, mais j'avais gagné cette Coupe Stanley-là. Je commençais à avoir certains problèmes de blessures légères, donc je pensais à ma santé aussi. Et puis j'ai pris cette décision-là, et puis quelle magnifique 6 années qu'on a passées là-bas.
Des fois, les gens se rendent pas bien compte, mais surtout quand on joue dans la Ligue nationale, la NHL, ici en Amérique du Nord, les joueurs ont des vies de dingue.
Oui.
C'est-à-dire on dort rarement à la maison, on passe son temps dans les hôtels, on passe son temps dans les avions, on a une vie de famille qu'on met un petit peu,
oui,
de côté. Et ça, c'est quand même une réalité qui est assez, assez difficile. Est-ce que c'est un facteur aussi à un moment de venir en Europe, en Suisse en particulier, aussi pour avoir une vraie vie de famille?
Oui, tout à fait. Le rythme de vie est complètement différent. En Amérique du Nord, c'était 82 parties, des pratiques à tous les jours, les voyagements. Bon, il y a beaucoup de pression pour un étranger à jouer en Suisse, mais la pression à Montréal, elle était très forte aussi. Donc, pendant ta saison de hockey, ta femme, elle est à côté de toi, mais tu ne la vois pas vraiment. Je n'avais pas d'enfant, mais je sais que souvent, les enfants aussi passent dans le tordeur. Mais je suis arrivé en Suisse ma première année, je crois qu'on faisait 28 parties. Comparativement à 82, par la suite, ça tombait à 36 parties. Donc, le rythme de vie, la qualité de vie familiale, c'était vraiment génial.
Et quand on arrive en Europe et puis qu'on pose ses affaires à Lugano, je pense qu'il y a pire comme endroit aussi pour pouvoir profiter de la vie, d'avoir quand même une météo qui est assez, assez intéressante. Il y a,
ouais,
quand même des villes pour aller faire du shopping qui sont pas très loin. Ça doit être magnifique comme découverte.
Oui, c'était magnifique. J'avais été à Lugano lors de mon séjour pour aller visiter mon frère. Je l'avais vu rapidement. Par la suite, j'ai eu la chance de le découvrir pendant 2 ans. Mais oui, Lugano, ça a été ma porte d'entrée pour la Suisse. Mais moi, j'ai vraiment connecté, oui, avec le magnifique pays de la Suisse, les différentes villes que j'ai vraiment beaucoup appréciées. Mais j'ai vraiment aimé les gens, la culture, les différentes cultures, parce que bon, il y a différentes cultures en Suisse. Mais j'ai connecté avec ce peuple-là, et puis j'étais pas chez moi, mais je me sentais comme chez moi. Puis les gens de Suisse, les partisans de hockey, m'ont beaucoup donné en amour, m'ont beaucoup supporté. Et puis j'ai encore un attachement pour la Suisse.
Tu l'avais imaginé, ça? Parce que lorsqu'on suit des matchs de la Ligue nationale, il y a de l'ambiance, mais peut-être pas aussi forte qu'on pouvait la voir dans les patinoires suisses à cette époque-là. Il y avait beaucoup plus de places debout qu'aujourd'hui. Il y avait quand même la Curva Nord à Lugano,
oui,
qui était quand même assez, assez bruyante et qui pouvait mettre la pression sur des joueurs. Ça, c'était une surprise pour toi?
Oui, je n'avais entendu parler, évidemment, mais de le vivre de l'intérieur, cette pression-là sur l'étranger qui se doit de performer, de faire la différence en tous les soirs. Parce que, bon, si tu ne performais pas, on pouvait te remplacer assez rapidement. Mais j'arrivais de Montréal, donc je connaissais un petit peu c'était quoi cette pression-là. Mais c'est ça le monde. C'est, tu performes, les gens vont t'apprécier, vont t'encourager. Si tu ne performes pas, il faut être prêt à te faire critiquer, ça vient un petit peu avec la responsabilité d'être un artiste ou un athlète qui performe sur une scène. Tu n'as pas le choix, il faut livrer la marchandise. Sans ça, tu t'exposes à la critique ou lorsque tu performes bien, ben, on te met sur un piédestal et puis les gens t'apprécient beaucoup.
Dans mon souvenir, c'est plutôt la deuxième option qui s'était concrétisée pour toi. Tu étais plutôt sur un piédestal qu'au centre de la critique lorsque tu jouais en Suisse, et ceci dans les trois clubs pour lesquels tu as joué.
Bien, je pense que, de façon générale, oui, j'ai eu quand même 6 belles saisons de hockey. Ma deuxième saison à Lugano, malheureusement, fracture de la mâchoire, virus de la méningite, a fait en sorte que mon arrêt à Lugano s'est arrêté là. Et puis, bon, Lugano, évidemment, pour un étranger, c'est quand même important d'avoir des liens un petit peu avec l'entraîneur. Et puis, lors de ma deuxième année, c'était un entraîneur suédois qui était là. Donc, il y avait une vision un petit peu différente du hockey que les Canadiens. Puis moi, j'étais un joueur de centre canadien, donc ça a nécessairement pas été un bon fit.
C'était Mats Svaltin, j'ai un doute sur le nom.
C'était Mats Svaltin.
C'était lui.
Oui. Et puis, suite à ça, je produisais, j'avais une très belle saison lorsque j'étais en santé, mais à la fin, ça s'est arrêté. Puis, je pense encore avec un recul, si j'avais eu, mettons, Jim Colliffe qui a connu beaucoup de succès comme entraîneur canadien, si Jim avait été avec Lugano, peut-être j'aurais jamais quitté Lugano. Mais c'est ça, la vie d'athlète, on ne sait jamais ce qui arrive. Et puis, je ne vois pas Lugano comme un échec, mais à la fin, c'était une petite déception parce que j'allais en Suisse pour gagner un championnat avant tout avec Lugano. Mais cette déception-là a fait en sorte que je me suis déplacé vers la Chaux-de-Fonds et après vers Ambrì-Piotta. Et puis, wow, ça a été, comme je dis, là, un prolongement d'une expérience fantastique.
Et justement, quand tu quittes Lugano et tu viens à La Chaux-de-Fonds, à ce moment-là, La Chaux-de-Fonds, ce n'était pas un club, on va dire, de prestige. Il avait un immense passé de conquête, mais ce n'était pas un club favori à ce moment-là. Pourquoi tu fais le choix de venir à La Chaux-de-Fonds?
Mais je suis rendu à une étape de ma carrière où, peu importe les défis, je suis prêt à les relever. Puis, La Chaux-de-Fonds, un premier contact, je parle avec les gens, je trouve que ça fait du sens. Et puis, bon, La Chaux-de-Fonds nous offre, à moi et mon frère, d'évoluer ensemble en Suisse. On en avait discuté, moi et Patrick, que peut-être un jour, on aimerait bien pouvoir jouer ensemble en Suisse. Et puis, bon, La Chaux-de-Fonds nous offre cette opportunité-là. Donc, on saute sur l'occasion, découvre, un petit club, mais un petit club de qualité. Puis, c'est pas négatif quand je dis petit club, mais avec une belle histoire, avec une fierté. Et puis, bon, j'ai embarqué dans le bateau. Et puis, jouer au malaise, ça a été deux belles saisons. Évidemment, j'étais quand même en très bonne forme. Puis, la Ligue nationale A, à l'époque, demeurait une de mes priorités. Puis bon, cette année-là, on avait bon, une bonne équipe, mais on manquait peut-être un peu de profondeur pour aspirer aux grands honneurs. Et puis malheureusement, j'ai vécu une de mes plus grandes frustrations avec la Chaux-de-Fonds parce que ma première année, ça a été l'année de la relégation de la Chaux-de-Fonds. Okay. Et puis encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de frustration parce que à l'époque, la formule de la relégation, elle était vraiment, mais vraiment mauvaise. C'était un tournoi à la ronde de 3 équipes. Donc, on n'avait pas notre plein contrôle. D'un, on avait très peu de matchs pour se sauver ou pour se sauver sa peau. On était un petit peu dépendant de ce qui se passait dans les autres parties. Mm-hmm. On avait joué du bon hockey à Langue Nord. On s'était fait voler le match par un gardien de but qui avait tout arrêté.
Thibaut Gerber, déjà?
Je me souviens pas si c'était lui, mais on les avait dominés, mais incapables de marquer de but. Le match à Zurich, on marque le but gagnant. L'officiel refuse le but. Finalement, ben, la Chaux-de-Fonds coule en Ligue B. Et puis pour moi, encore aujourd'hui, ça passe pas bien, mais maintenant, au moins, les équipes, ils vont jouer des meilleurs de 7 matchs. Donc, tu as vraiment un contrôle sur tes performances. Si tu perds, ben, tu perds. Fait que, puis bon, on a coulé en Ligue B, puis par la suite, j'ai décidé de rester à la Chaux-de-Fonds, même si on était en Ligue B. On avait connu une saison fantastique avec Valérie Chiliarev. Patrick avait décidé de revenir en Amérique. Et puis, c'était notre passage à la Chaux-de-Fonds.
Et vous étiez remonté avec la Chaux-de-Fonds?
Non.
Non.
Non, parce que par la suite, mon contrat est venu à échéance avec la Chaux-de-Fonds. On avait une très, très belle année. Je pense qu'il y avait des ambitions de remonter en Liga. Mais c'est là qu'Henri Piotta, eux, cherchaient des étrangers. Et puis, encore là, avec mon frère Patrick, ils étaient venus chercher les deux frères Lebeau. Donc
c'était Jacques Noël qui était le directeur sportif à ce moment-là, non?
Ben, il n'était pas le directeur sportif, mais il était un petit peu notre conseiller. Mais je sais qu'il jouait quand même un rôle assez important avec Henri Piotta. Donc, je suis parti de la Chaux-de-Fonds à Henri Piotta. Les ennemis jurés de Lugano, je savais dans quoi je m'embarquais. Bon, mais encore là, une autre belle expérience. Henri Piotta, c'est très particulier. Hein,
mais justement, là, il faut que je t'arrête parce que tu as porté les deux maillots. C'est, ouais. Tu disais avant, il y a quelques minutes, que la rivalité Bobby Orr avec Montréal et Boston. Tu as connu aussi la grande rivalité Montréal et les Nordiques.
Ben ouais.
C'est des choses qui ont été formidables, hein, qui ont fait l'histoire. Cette rivalité entre Henri et Lugano, elle est comparable avec celle que tu avais connue ici?
Je dirais qu'elle est beaucoup plus viscérale. Mm. Je trouve que la passion entre les deux équipes... Montréal-Québec, c'est tout près, mais la proximité Lugano-Henri, c'est encore beaucoup plus près. Écoute, je me souviens que mon père était venu me visiter lorsque j'étais pour Lugano. Et puis, on avait un transfert à Henri Piotta, et puis... Mon père, il dit « Ah non, je vais rester à la maison. » Et puis j'ai un ami, Oscar Taliaboué, qui était impliqué avec le Lugano. Il avait insisté pour que mon père vienne voir le derby Lugano à Henri Piotta. Et mon père avait tout simplement pas cru ce qu'il a vu comme intensité. Donc de vivre ça de l'intérieur, ça a été extraordinaire. Puis là, je retourne à Henri Piotta. Et puis, je m'attends peut-être à avoir un accueil un petit peu mitigé à Lugano, parce que maintenant, je suis rendu l'ennemi. Mais je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que l'accueil des Luganois, malgré mon maillot de Henri Piotta, a été fantastique. Donc, j'aime penser que j'étais peut-être un des seuls joueurs de Henri Piotta à être applaudi et apprécié par les partisans de Lugano.
Mais c'est peut-être parce que tu leur en avais donné pour leur argent.
Écoute, je sais pas, j'ai toujours essayé d'être le joueur, un joueur honnête sur la patinoire en m'investissant. Et puis aussi, comme personne à l'extérieur, j'essaie toujours d'être une personne conviviale, généreuse. Et je respecte beaucoup, et j'apprécie beaucoup les gens qui viennent nous voir, qui apprécient le travail qu'on fait.
Tu arrêtes tôt ta carrière, quand même, quand tu quittes en 2001 Embray, tu as 33 ans, comme tu l'as dit avant. c'est quand même tôt pour arrêter. Est-ce qu'il y avait une raison au fait que tu décides aussi rapidement de tirer la prise?
Bien, ma dernière saison en Bripiota avec Pierre Paget comme entraîneur avait été un petit peu difficile, malgré que c'était un entraîneur canadien. Pierre faisait les choses différemment. Et puis, je pense que physiquement et mentalement, j'avais peut-être une forme de fatigue. Rien de grave, mais ma mère avait été diagnostiquée avec un cancer du sein. Elle avait des problèmes de santé. Ça faisait 8 ans que j'avais quitté le Québec parce que j'avais fait 2 ans en Californie. J'avais fait 6 ans maintenant en Suisse. Donc, j'avais peut-être besoin plus d'une pause qu'une retraite. Mais à l'époque, j'ai pris la décision que, bon, c'est suffisant. J'ai gagné ma Coupe Stanley, 6 belles années en Suisse. En Suisse, il ne faut pas oublier, on a gagné 2 Continental Cup. On a gagné la Super Cup avec Ambry. J'avais un regret de ne pas avoir soulevé la Coupe comme champion suisse. Mais je trouvais que j'étais en santé. Bon, j'ai dit, c'est le temps, même si je suis jeune. Donc, j'ai arrêté. Par la suite, j'avais des pensées de revenir peut-être comme joueur de hockey. Mais un petit problème de santé, malheureusement, est arrivé dans mon cas. Puis ça fait en sorte que ça l'a arrêté totalement.
Et juste, ben, on s'est parlé quelques fois ces 20 dernières années. Tu avais embarqué dans le coaching,
oui.
En fait, à différents niveaux, mais surtout dans les rangs juniors et collégiaux. Hein, c'est correct?
Oui, bien correct. Pour, j'ai touché pratiquement à tous les niveaux de façon professionnelle, puis aussi par l'entremise de mon garçon. Donc, le coaching, j'ai touché presque à tous les niveaux.
Et puis, on prend du plaisir parce que quand on a été joueur et puis se retrouver derrière le banc pour essayer de redonner, en fait, à ça, on prend du plaisir à faire ça, où on se rend compte qu'en fait, c'est quand même un vrai métier, quoi.
C'est un métier, mais ce qui est arrivé, là, je prends ma retraite, comme je mentionne, j'ai besoin d'une pause. Donc, je suis à peu près 18 mois à rien faire. Je ne fais que du tennis. Puis je m'occupe de mon garçon Jeffrey qui était né pendant mes années avec Ambry Piotta. Il est né en Suisse, notre garçon. Et puis je fais du tennis 40 heures semaine. C'est ma passion. Je m'occupe de fiston. Et là, à un moment donné, je me fais proposer d'être entraîneur-chef d'une équipe de bon niveau junior ici au Québec. Et là, je réfléchis. Est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux? Et puis, j'embarque dans l'aventure. Et puis, il faut comprendre avant, c'est que lorsque tu es joueur de hockey de haut niveau, c'est parce que tu as une passion, une obsession. C'était ma vie, le hockey. Je ne vivais que pour le hockey. Même si j'avais un besoin de repos, le hockey, ça a été toute ma vie. Et puis, lorsque tu décides d'arrêter de jouer au hockey, tu dois faire ton deuil. De remplacer toute cette passion-là, cette charge émotive, ce défi-là, dans ta vie professionnelle, c'est pas facile. Moi, j'ai été 5 ans à être plus ou moins à l'aise avec cette retraite-là. Et puis, c'est là que le défi de devenir entraîneur vient combler un petit peu cette perte, pas de jouissance, mais de défi professionnel sportif. Donc, je me suis lancé dans le coaching et puis j'ai arrêté à la fin de la dernière saison. Ça m'a emmené sur un parcours encore très, très intéressant, d'autres défis, de partager ta passion, tes connaissances pour essayer de rendre des équipes au top niveau, des athlètes au top niveau. Bien, j'ai pris beaucoup de plaisir.
Et pourquoi est-ce que tu ne l'es plus cette saison, entraîneur?
Bien, c'est un choix familial. Moi, ma conjointe, on est rendu à 55 ans et puis bon, on décide présentement, notre plan, c'est qu'on veut passer du temps pour nous. Et puis, ça va passer par un long séjour en Floride. On a une résidence en Floride. Donc, lorsque tu es dans le coaching, c'est beaucoup d'investissement. Tu dois être disponible pour une saison complète. Et à partir de l'année prochaine, bien, on devrait habiter pendant 5 à 6 mois au chaud, au soleil de la Floride. Et puis, c'est pour ça que j'ai mis un terme un petit peu à ma carrière de coaching. À un moment donné, on doit prendre des décisions, on vieillit. J'ai eu d'autres opportunités encore, mais pour le moment, est-ce que je peux changer d'idée? Il va falloir convaincre ma conjointe. Mais pour le moment, je suis à l'aise avec ma décision. Je reste impliqué dans le hockey à différents niveaux. Je suis consultant de coach, donc j'épaule ou je conseille des entraîneurs afin qu'ils deviennent meilleurs. Mm-hmm. Et pour le moment, c'est ce que je fais.
Donc, tu ne te sens pas en situation de manque parce que ta vie avait été, les 55 premières années de ta vie avaient été rythmées par la patinoire, par les pucks, tous les jours ou presque pour ça. Et là, il n'y a plus. Donc,
La séparation du hockey là, se fait graduellement. Comme je dis, c'est ma première saison que je ne suis pas derrière le banc. Je vais à tous les jours regarder les différents résultats de hockey qui se fait au Québec, dans la Ligue nationale, chez les professionnels, même en Europe. Je vais deux, trois fois par semaine consulter le site de Swiss Hockey pour regarder qu'est-ce qui se passe dans la National League et dans la Swiss League. L'Allemagne, je suis encore très actif, mais un petit peu plus à distance.
Ouais, d'accord. Donc, ça signifie que si, je sais pas, Ambris ou Lugano cherchent un entraîneur dans les 3-4 prochaines années, t'es pas une personne qu'il faut appeler.
Bien, jamais je vais fermer une porte. De toute évidence, on a et j'aurai toujours le hockey dans le sang. J'ai failli aller coacher la Chaux-de-Fonds à un moment donné, il y a peut-être une dizaine d'années, j'avais cette opportunité-là. Ma femme, elle était retournée au travail avec son travail comme enseignante. Elle avait fait le sacrifice, lorsque j'étais joueur, de mettre sur pause sa carrière à elle. Et lorsque c'est venu le temps de prendre la décision de retourner en Suisse comme entraîneur, elle a dit, bien, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour toi. Maintenant, c'est à ton tour de faire un sacrifice pour moi. C'est ce qu'on a fait. Et puis, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Je ne suis pas fermé à l'idée, mais pour le moment, le soleil de la Floride m'attire beaucoup.
D'accord. Tu sais qu'il y a beaucoup de soleil en Suisse aussi, mais oui, ça c'est
pas... Oui, à la Chaux-de-Fonds, beaucoup de soleil en haut des montagnes. Il y a Lugano, évidemment. Le lac et les palmiers, je sais très bien ce que la Suisse représente et puis je serais vraiment pas déçu de retourner en Suisse. D'ailleurs, c'est dans nos plans de retourner, aller voir nos amis, refaire un petit peu le trajet qu'on a fait lors de ces 6 années-là.
Comme joueur, tu es un joueur extraordinaire. Tu es un joueur technique, habile, pas le plus robuste qu'on pouvait avoir. Tu n'as pas l'impression que si tu étais un joueur aujourd'hui, tu serais encore meilleur. Que le hockey qui est pratiqué aujourd'hui est un hockey qui correspond davantage à tes qualités que tu avais comme joueur.
Ah, c'est certain. J'en suis convaincu. À mon époque, moi, si vous regardez mes statistiques, j'étais parmi les meilleurs joueurs au pays, au niveau canadien. Il n'y a pas une équipe qui a pris une chance sur moi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le hockey exigeait... une capacité physique, jugé beaucoup trop petit pour être en mesure d'évoluer dans la Ligue nationale, malgré mon talent, malgré mes qualités techniques. Puis j'ai réussi, malgré tous ces préjugés, à l'époque, le hockey était différent. J'ai réussi à connaître une belle carrière. Et je pense que heureusement le hockey a évolué. Et puis on étouffait beaucoup de talent à l'époque. Et puis maintenant, ce talent-là, peu importe ton gabarit, bien, tu es capable de le démontrer sur la patinoire. Et je pense que le hockey en est gagnant, les spectateurs en sont gagnants. Et puis oui, je pense que le hockey aujourd'hui aurait été plus facile pour moi, mais on ne choisit pas ces époques dans lesquelles on évolue. Et puis il faut faire avec les défis que notre époque nous envoie. Mais ça aurait pu être mieux, mais j'ai aucun regret de ce que j'ai accompli, au contraire.
Je te remercie vraiment pour ton temps, Stéphane. C'était un plaisir. Bonne chance pour la suite.
Merci. C'est toujours un plaisir de te rencontrer, Emmanuel. Et puis aussi de la Suisse. Dernièrement, on a eu des amis qui sont venus nous visiter de la Suisse, des amateurs, des grands partisans de la Chaux-de-Fonds. Et puis, je profite du fait que je veux saluer le peuple suisse et spécialement les partisans de hockey. Ils ne savent pas, mais je suis au Québec. Puis la Suisse fait partie de moi et de ma conjointe de façon presque quotidienne. Donc, merci pour votre support et j'ai été honoré d'être là parmi vous pendant 6 ans.
D'accord. Le plaisir était partagé, Stéphane.
Merci, Emmanuel.
À bientôt. Hein. Merci.